Vous écoutez On lit pour vous.
Une victoire qui donne du souffle aux locataires aînés. Un texte du réseau FADOC, paru à l'automne 2024 dans le magazine Virage. Après avoir multiplié les sorties publiques en faveur d'une mouture plus musclée de la loi Françoise David, le réseau FADOC applaudit la décision du gouvernement provincial d'élargir la portée des protections offertes aux personnes aînées contre les évictions. Mais, alors que le marché locatif est toujours en surchauffe, prévient l'organisme, il faudra plus de créativité pour pallier la crise du logement. Pour le réseau, pas de doute, la nouvelle législation représente une grande avancée. En effet, les personnes de 65 ans et plus, avec un très faible revenu et qui habitent dans leur logement depuis 10 ans, seront dorénavant protégées contre les évictions et les reprises de logement. Auparavant, il fallait avoir 70 ans pour jouir de cette protection législative. De plus, le seuil de revenu pour y être admissible a été rehaussé à 125 % de celui permettant d'avoir accès à un logement à loyer modique. Nos lettres ouvertes, nos participations à des points de presse à l'Assemblée nationale, ainsi que nos sorties publiques en compagnie de Québec solidaire et plusieurs représentants de la société civile ont porté leurs fruits, a affirmé la présidente du réseau FADOC, Gisèle Tassé-Goodman. On constate que les pressions politiques effectuées donnent des résultats. Bien que cet élargissement de la loi soit bien accueilli, le réseau aurait souhaité que le gouvernement du Québec révise à la baisse le nombre d'années à occuper un même logement pour se prévaloir de la loi. Une mesure exceptionnelle. À ces mesures pérennes, le gouvernement en ajoute une autre qui est temporaire et exceptionnelle. Durant les 3 prochaines années, aucun propriétaire d'immeuble résidentiel ne pourra évincer un locataire, et ce, peu importe l'âge, pour subdiviser le logement, l'agrandir substantiellement ou en changer l'affectation. Pour le réseau FADOC, il s'agit d'une approche mesurée dans un contexte de crise du logement sans précédent. Malgré cette avancée législative, la crise risque de perdurer. Voilà pourquoi le réseau FADOC réitère qu'il est impératif de faire preuve de créativité pour diversifier les milieux de vie collectifs pour personnes aînées, en encourageant des modèles comme ceux des coopératives d'habitation et des résidences pour personnes aînées à but non lucratif. Les habitations intergénérationnelles doivent également être encouragées, plaide la FADOC, en simplifiant et uniformisant les règlements qui les encadrent. C'était une victoire qui donne du souffle aux locataires aînés, un texte de réseau FADOC, paru à l'automne 2024 dans le magazine Virage.
La galerie d'une vie cachée dans une maison de Villeray. Un texte de Jean Bourbeau, paru le 16 juillet 2024 dans Urbania. Quand la température le permet, je sors quelques toiles sur le balcon pour les montrer au quartier. La porte est toujours ouverte, confie Konstantinos Gliminakis en me serrant la main. Malgré le soleil de l'après-midi, l'obscurité envahit le 5,5 de la petite rue Drolet au cœur de Villeray à Montréal. « Le courant devrait revenir d'ici 30 minutes », ajoute-t-il, incrédule. À chaque fois que je passe devant cette modeste demeure de briques, je suis captivée par les fresques qui sèchent au soleil. Leur beauté me fascine, mais surtout l'artiste qui les crée. Un homme âgé, fragile et empreint de mystère. Mais quelle est son histoire? Nous prenons place en dégageant une pyramide de toiles posée sur une chaise. Dans chaque pièce, des peintures, des calepins, des esquisses. Partout, spatules, pinceaux et cadres s'entremêlent dans un désordre où la frontière entre atelier et lieu de vie se fond magnifiquement. Konstantinos Gliminakis m'explique avec fierté que certaines de ses œuvres ont été exposées dans des galeries à Montréal, vendues à Ottawa et même aux États-Unis. Malgré l'installation d'Internet par sa fille pour faciliter la vente en ligne, il préfère ouvrir son atelier à la ville et vendre ses œuvres aux passants. Nombreux sont ceux qui, comme moi, s'arrêtent, intrigués par la bannière qui flotte devant son domicile. Ses peintures explorent des paysages imaginaires, des souvenirs et des natures mortes. Il passe de l'abstraction à la figuration, utilisant l'acrylique, l'huile et même l'aquarelle, convaincu que l'essentiel est de créer. « Il ne faut qu'un bout de crayon », déclare-t-il, en montrant une série de pierres qu'il a transformées en toiles. Nul ne sait combien de toiles il a peintes au cours de sa vie, ni combien de temps il passe sur chacune. « Le temps que j'ai, je peins », explique l'artiste à la carrière discrète, mais prolifique. « Devant une toile blanche, tu trouveras ton chemin. La peinture te rapproche de toi-même. » Aujourd'hui âgé de 86 ans, Konstantinos a grandi dans le petit village d'Anopolis, en Grèce. Issu d'une famille modeste de 8 enfants, il entre à l'école ecclésiastique de Crète. C'était un monastère où l'art occupait une place importante. J'y ai appris à dessiner au charbon, à l'encre et à la peinture à l'huile, raconte-t-il, en feuilletant ses dessins des années 50. Nous avions un professeur remarquable, un véritable artiste, exigeant et rigoureux. Ainsi naquit sa passion pour l'art visuel. À sa graduation, le monastère s'oppose toutefois à ce qu'il poursuive ses études dans une école d'art, souhaitant plutôt qu'il devienne prêtre, chose qui lui était inconcevable. À cette époque, le service militaire était obligatoire en Grèce, un pays qui peinait à se relever des ravages de la Seconde Guerre mondiale. L'artiste se fait donc soldat. Après plus de 2 ans passés dans la marine, il se retrouve à travailler comme débardeur pour une entreprise américaine à Chittagong, l'un des plus anciens ports du monde situé au Pakistan oriental, aujourd'hui le Bangladesh. Mais qu'est-ce que je fais de ma vie? Se questionne-t-il dans ce carrefour de la planète. Il embarque seul sur un paquebot et passe plusieurs semaines en mer avant d'accoster à Seattle. De là, il se rend clandestinement à Vancouver, puis prend le train pour Montréal, où il connaît quelques membres de la communauté hellénique. Sans valise ni papier, il dépose son baluchon dans la métropole en 1964. Bien qu'il continue de griffonner à temps perdu, il met en veille ses aspirations artistiques pour subvenir à ses besoins. Malgré une maîtrise limitée du français et de l'anglais, il trouve un emploi dans une entreprise de textile sur la rue Chabanel. Il fait la rencontre de son épouse, une femme d'origine grecque, pleine d'amour et d'énergie, avec qui il aura une fille. Les années défilent et Konstantinos gravit les échelons jusqu'à finalement devenir gérant d'équipe, consacrant près de 25 ans à cet emploi. C'est dans le tumulte des années 90, au moment d'une retraite forcée par la maladie et du décès de sa conjointe, qu'il renoue avec ses premières amours. « Ma femme me manque encore énormément. Pour ne pas penser à elle, je m'occupe. Je ne peux rester inactif. Mes mains doivent travailler. La vie est ainsi faite. » Nous descendons au sous-sol, éclairé seulement par la lumière de mon cellulaire. « Je n'ai jamais mis une peinture à la poubelle, » dit-il en se tournant sur lui-même, entouré de centaines, voire de milliers de trésors entreposés dans cet espace anonyme de Montréal. On voit que l'artiste crée davantage qu'il ne vend. De retour à l'étage, il me tend une petite œuvre peinte sur un carton. « Chaque personne qui vient chez moi repart avec quelque chose. » Aujourd'hui, le monastère de son enfance, désormais transformé en musée, a été le lieu d'accueil de certaines de ses œuvres. Une douce revanche. Malgré ses yeux fatigués par les années et les cannes ornant son entrée, je lui demande d'où il tire une énergie créatrice aussi indomptable. « Une force me vient d'en haut », répond-il simplement. « Je peindrai toujours, mais ma vie touche à sa fin, mon ami. » 2 heures après mon arrivée, Konstantinos retourne lentement à son chevalet, indifférent à l'électricité qui manque toujours. Il doit peindre, mais la porte reste ouverte. C'était la galerie d'une vie cachée dans une maison de Villeray. Un texte de Jean Bourbeau, paru le 16 juillet 2024 dans Urbania.
Dans la tête de l'équipe de design de Lululemon, habilleur officiel d'Équipe Canada, un texte de Mégane Foy, paru le 27 août 2024 dans la presse. Beaucoup ont encore en tête les uniformes d'Équipe Canada qui ont soulevé les passions aux Jeux de Paris, pour le meilleur et pour le pire. La presse s'est entretenue avec la Québécoise Catherine Lebrun, qui dirige l'équipe de design derrière les habits olympiques chez Lululemon. Le mandat. Ça a toujours été mon rêve de faire les kits, les outfits pour Team Canada, a confié Catherine Lebrun à la presse, à son retour des Jeux de Paris. C'est une fierté instantanée qui l'a habitée lorsqu'elle a vu défiler les 338 athlètes habillés de rouge à la cérémonie d'ouverture. C'est en 2011 que la conceptrice a entamé sa carrière en design graphique chez Lululemon, qui est établie en Colombie-Britannique. C'est dans ce domaine que la Vancouveroise d'adoption a obtenu un baccalauréat à l'UQAM 3 ans plus tôt. Or, c'est le design textile qui l'a guidée tout au long de ses études. J'ai toujours fait beaucoup de mes propres vêtements. Ma manager, au tout début, a remarqué ça, explique la créatrice originaire de Québec. C'est ainsi que, depuis 2020, elle est à la tête de l'équipe qui réfléchit, confectionne et dessine les uniformes olympiques canadiens dont le contrat de réalisation a été obtenu par Lululemon pour 4 Jeux consécutifs. En travaillant pour Lululemon, on travaille avec beaucoup d'athlètes. Donc, c'est sûr que pour moi, les Olympiques, c'est un peu comme le Holy Grail, compare celle qui a presque effectué la moitié de son mandat de 4 JO chez Lululemon. Les imprimés. Les remises des médailles, la cérémonie d'ouverture et la cérémonie de clôture sont parmi les moments les plus médiatisés au jeu. Tour d'horizon de chacun des uniformes spécialement créés pour ces occasions. D'abord, l'uniforme du podium, soit celui porté par les athlètes lorsqu'ils reçoivent une médaille. D'après les explications de Catherine Lebrun, l'imprimé est une interprétation moderne de la feuille d'érable. Qu'est-ce qu'on peut en faire? Comment on peut la regarder différemment? S'était-elle demandé. Ensuite, pour les uniformes de la cérémonie d'ouverture, c'est chaque province, des fleurs différentes, les animaux et l'architecture du pays, détaille la designer. En voulant dessiner un portrait du pays, on peut retrouver sur les manteaux des symboles comme l'orignal ou des éléments de végétation propres à chaque province du Canada. Finalement, pour la cérémonie de clôture, l'origine de l'inspiration des vêtements foncés et parsemés de couleurs vives réside dans les aurores boréales, nous apprend la créatrice. L'équipe de design s'est inspirée de réelles photographies pour conceptualiser les vêtements. Lululemon a même prévu des habits en pensant spécifiquement aux entrevues médiatiques données par les athlètes pour leur procurer un confort supplémentaire, note Catherine Lebrun. Les critiques. Nous, on regarde tout le feedback parce que c'est toujours utile pour nous de savoir. Parlez-en en bien, parlez-en en mal, l'important, c'est qu'on en parle, réagit Catherine Lebrun lorsque la presse lui souligne les nombreuses critiques des habits olympiques, particulièrement celles qui ont été engendrées par les uniformes du podium. Ces derniers ont provoqué un tollé sur les réseaux sociaux où nombre d'images ont été utilisées pour comparer l'interprétation de la feuille d'érable à de simples éclaboussures rougeâtres ou pire, vues de loin, à des tranches de bacon. C'est à la cérémonie d'ouverture des Jeux de Pékin en 2022 qu'elle a vraiment réalisé l'ampleur des réactions que les habits olympiques suscitent. Les gens ont vraiment un sentiment d'appartenance par rapport à ça. Ça veut dire beaucoup pour eux. C'est une grande signification, avait-elle constaté. Ça m'a comme un peu donné le vertige. Selon elle, le retour a été très positif de façon générale. Les commentaires les plus importants pour eux restent ceux des athlètes. Quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, en tant que designer, ça devient vraiment une opportunité pour nous, précise la gestionnaire. Les Jeux paralympiques. Ce mardi, une partie de l'équipe de design de Lululemon s'envole pour les Jeux paralympiques qui s'amorcent mercredi 28 août 2024. Lorsqu'on est l'habilleur officiel d'Équipe Canada, une part du défi se trouve dans l'adaptation des uniformes aux différents besoins des athlètes paralympiques, souligne la directrice du design. Si tu es un athlète en fauteuil roulant ou avec une déficience visuelle, tu as des besoins qui sont différents. Puis ce sont des produits qui ne sont pas nécessairement disponibles sur le marché, explique la conceptrice. Par exemple, il y a un souci supplémentaire quant au tissu utilisé dans la confection des vêtements, puisque l'intérieur des bras d'un athlète en fauteuil roulant subit davantage de friction. Certains modèles sont aussi conçus afin qu'ils soient plus faciles à enfiler en position assise. Elle raconte que l'athlète paralympique Alison Levine, qui sera des Jeux de Paris en boccia, a déjà eu besoin d'amener son propre pantalon pour ses compétitions, faute d'options convenables pour elle. Le but des Olympiques, c'est que toute l'équipe puisse avoir le même outfit pour avoir un sentiment d'unité, avance Catherine Lebrun. La designer note que les designs adaptés sont également en vente chez Lululemon. Milan 2026. Préparer des uniformes olympiques, c'est un processus d'au moins 3 ans. L'entreprise réfléchit donc aux prochains Jeux d'hiver depuis déjà plus d'un an. Pour Milan, ce qui est le fun, c'est qu'on a fait les Jeux olympiques de Pékin, alors c'est la première fois qu'on peut refaire les Olympiques de la même saison, explique Catherine Lebrun. On a beaucoup de feedback qu'on a eu et entendu de Pékin qu'on peut appliquer. Ce qui est vraiment bien pour nous, enchaîne-t-elle. Si les vêtements sont évidemment pensés en fonction de la saison, leur utilité pourrait aussi changer selon la culture du pays hôte. C'est ce qu'a constaté à Paris avec humour la designer. Pendant la cérémonie d'ouverture, on a vu certains athlètes qui utilisent le compartiment à bouteille d'eau de leur sac pour différentes choses, dont des baguettes, du fromage, une petite bouteille de vin, se remémore la designer québécoise en riant. C'était dans la tête de l'équipe de design de Lululemon, habilleur officiel d'Équipe Canada, un texte de Mégane Foy, paru le 27 août 2024 dans la presse.
Le Centre Sanaac, la bibliothèque de l'avenir. Un texte de Caroline Monpty, paru le 17 août 2024 dans Le Devoir. Dans le vaste arrondissement de Ville-Marie, entre le boulevard Saint-Laurent et l'enclave cossue de Westmount, la ville de Montréal n'a pas de bibliothèque publique. C'est au milieu de cette zone, sur le site de l'ancien hôpital pour enfants de Montréal, près de la station Atwater, que doit s'élever au printemps 2025 le nouveau centre communautaire et culturel Sanaac et sa bibliothèque multilingue à espace ouvert. Multiculturel comme la population du quartier, le district Peter McGill, cette bibliothèque de l'avenir devrait aussi être l'incarnation du troisième lieu. Un lieu de rencontre autant qu'un lieu de réflexion, un lieu d'apprentissage comme de pouvoir citoyen. On y viendra pour lire, mais aussi pour participer à des activités sportives, culturelles ou culinaires. C'est le premier centre mixte de la ville de Montréal, explique Marie Houd, chef de section Culture et communauté à la ville de Montréal. C'est elle qui dirigera le centre Sanaac à son ouverture. Ce que ça veut dire, c'est qu'on réunit sous un même toit le volet bibliothèque, mais aussi le volet culturel à travers une maison de la culture. Il y a des espaces pour la communauté, des activités aussi, en plus de sport et de loisirs. C'est assez nouveau pour la ville d'avoir dans un même lieu une offre intégrée de tous ces volets-là. Le concept de troisième lieu a été popularisé dans les années 1980 par le sociologue américain Ray Oldenburg et désignait d'abord un endroit où socialiser entre la maison et le lieu de travail. Mais aujourd'hui, l'urbaniste américain Richard Florida parle quant à lui des nouvelles bibliothèques comme de véritables infrastructures sociales où retricoter le tissu social américain après la rupture engendrée par la COVID-19. Les bibliothèques de l'avenir, multifonctionnelles, multiculturelles, accueillent tous les citoyens des sans-abri aux chefs d'entreprise. On peut s'y asseoir sur le sol, manger et discuter, faire de la couture et de la cuisine ou utiliser des imprimantes 3D, le tout dans des espaces décloisonnés, à l'exception de certains espaces qui sont réservés à l'étude et au silence. Il y a des exemples comme la bibliothèque d'Helsinki en Finlande ou même aux Pays-Bas. Ça ressemble beaucoup au centre qu'on va faire, explique Jesse Fontaine, responsable de la bibliothèque du futur centre. Il y a à la fois un Media Lab, un Musée Lab, il y a des salles d'exposition, il y a des salles de spectacle aussi et des salles multifonctionnelles. On suit vraiment une tendance mondiale avec ce centre. On est en train de faire un rattrapage. La bibliothèque du futur centre Sanaac aura aussi une signature numérique. On pourra y emprunter des tablettes, des portables ou des consoles de jeux vidéo. Le but, c'est de donner un accès à tous à du matériel numérique qui est moins accessible pour certaines personnes, dans le but justement de réduire la fracture numérique, ajoute Jesse Fontaine. 60% du contenu du centre Sanaac sera disponible en support physique, contre 40% en numérique. Une participation citoyenne. Mais c'est la clientèle locale qui déterminera les orientations du centre Sanaac comme de sa bibliothèque. Des groupes de discussion avec les communautés s'y tiendront de façon régulière pour qu'elles fassent part de ses besoins de façon continue, dit Marie Houd. Les citoyens du quartier pourront y discuter de la collection, de la programmation, du code de vie, de même que de l'occupation des espaces. Chaque bibliothèque essaie d'avoir des livres qui correspondent à la communauté qu'elle dessert, dit Jesse Fontaine. Hôte de plusieurs cultures autochtones sur son territoire, le district Peter McGill est d'une grande mixité sociale. Le centre Sanaac a aussi comme mission de la représenter. Déjà, on a prévu d'y tenir une collection d'ouvrages autochtones de 780 titres, conçus avec la participation de Daniel Siwi, de la librairie et de la maison d'édition Anénorak, située à Wendake. On y trouvera aussi deux bonnes collections d'ouvrages destinés aux populations chinoises et iraniennes très présentes dans le quartier. Tout ce qui a été écrit par des auteurs autochtones du Québec ils l'ont en collection, dit Daniel Siwi. Reste que les livres publiés en langues autochtones seulement sont rares. Les éditions Anénorak publient parfois des éditions bilingues ou trilingues, principalement au rayon des livres jeunesse, destinés à l'enseignement en milieu scolaire. Les Autochtones publient toutefois de plus en plus de livres, remarque le libraire et éditeur. On prend conscience qu'en tant qu'Autochtone, on a le droit aussi d'avoir une voix, puis de raconter notre histoire. Un nom symbolique. Le nom du centre, Sanaak, est pour sa part le titre d'un roman écrit par l'Inuit Mityarjuk Naparluk dans les années 1950, dont l'un des buts était d'expliquer le monde inuit aux missionnaires blancs. On veut rendre hommage à une femme qui a été une précurseur, dit Marie Hood. On le sait, à deux pas du futur centre, le Square Cabot est un lieu de rassemblement pour des membres de la population inuit de Montréal qui sont très attachés au quartier. La racine du mot Sanaak, Stana, veut dire « fabriquer », poursuit-elle. Il y a l'idée de création à la main. C'est un nom symbolique, dit-elle, parce que le centre se veut un lieu de création et d'apprentissage. La bibliothèque du centre Sanaak regroupera aussi une collection d'ouvrages en langue chinoise, bilingue ou trilingue, pour que les enfants puissent les lire en compagnie de leurs parents. On a le mandarin, le cantonais et le wu, poursuit Jessie Fontaine. La sélection de cette collection de 750 livres s'est faite en collaboration avec le Centre d'aide à la famille chinoise du Grand Montréal. Une bibliothécaire d'origine chinoise a aussi participé à l'élaboration du corpus, qui compte des livres pour adultes, pour enfants, de la fiction et des essais. La troisième communauté culturelle très présente dans le district Peter McGill est la communauté iranienne. Pour la collection en farsi, c'est un peu différent, dit Jessie Fontaine. Comme il n'y avait aucune librairie agréée qui vendait ses livres à Montréal, il a fallu aller les chercher à l'étranger. Cette collection, montée en collaboration avec un libraire de Montréal, compte 180 documents. Le centre Sanaak occupera plus de 5 500 mètres carrés sur deux étages. Malgré des dépassements de coûts substantiels, l'objectif d'ouvrir au printemps 2025 semble maintenu. C'est un rendez-vous. C'était le Centre Sanaak, la bibliothèque de l'avenir, un texte de Caroline Monpetit, paru le 17 août 2024 dans Le Devoir.